parole du jour avec le Père Willem.
Une église prédestinée à la bienveillance. L'église, concrètement, c'est pas l'église qui est à Rome, c'est l'église ici et maintenant. Et ce qu'elle est à Chartres, celle qui est à maintenant, celle qui est là où vous vivez, tout simplement. Aucune théorie sociologique, aucune explication psychologique, aucun précepte religieux ne saurait avoir raison de l'étonnement que suscite en son humilité même la force d'une bienveillance qui s'accomplit en bienfaisance. La bienveillance est trop étonnante, trop scandaleuse même, quand elle va jusqu'au don de soi pour qu'on la range parmi les produits miracles de l'épanouissement personnel et qu'on en fasse le baume apaisant d'une société en mal de réconciliation. Placer l'existence sous le signe de la bienveillance, s'accepter de se confronter aux grandes questions métaphysiques dont le mot lui-même est porteur, celle du bien, qui, tout en ayant l'évidence de l'être, n'en constitue pas moins une énigme dont André Malraux disait qu'elle seule pourrait rivaliser avec le scandale du mal, celle de la volonté qui peut être bonne ou mauvaise, sans qu'on puisse identifier à la liberté qui s'identifie en elle. La présence dans le monde d'un être comme l'homme, capable de connaître le bien et de faire pourtant le mal, est elle-même une énigme. S'il en est ainsi, la bienveillance serait être l'apanage du naïf qui s'imagine que nul ne peut lui vouloir du mal, ou à l'inverse, de la belle âme qui croit ne jamais vouloir du mal à autrui. La bienveillance n'est pas une vertu qui posséderait tranquillement le cœur de l'homme, mais un vouloir aux prises avec la malveillance qui le décourage ou le pervertit. La malveillance de l'autre, le méchant, comme on n'ose plus le nommer, celui qui travaille à la déstabilisation vengeresse de l'humanité d'autrui, sous les traits du coléreux, du cynique, du pervers, du terroriste ou du tortionnaire, mais aussi la malveillance qui est en moi, quand je n'ai plus d'autre désir que de me faire du bien à moi-même et de parvenir à ce que j'estime le meilleur pour moi, de l'ignorance du méchant que je suis devenu pour les autres. Il faudrait désespérer à toute volonté humaine, oui, de toute volonté, si le désir qui l'anime ne venait pas du plus loin que de la subjectivité, s'il n'était pas suscité par la hauteur de l'autre, dont le visage met en question ma conscience et ma liberté. Dans sa nudité, le visage qui me vise et me visite est supplication et s'impose à moi. Il m'empêche des replis de mon égoïsme. Il me soustrait aux ruses de ma raison. Il me somme de répondre. Il en appelle à ma responsabilité. C'est d'ailleurs en ces termes que Manuel Levinas justifie l'extravagante générosité du pour l'autre. Arraché au dilemme de la raison ou volontarisme de la condescendance et aux ornières de la psychologie, la bienveillance peut ainsi être pensée comme une réponse inconditionnelle à l'injonction d'autrui, comme un mouvement vers l'autre auquel Levinas a voulu conférer une orientation liturgique, au sens où la liturgie requiert la gratuité et, de la part de celui qui l'exerce, une mise de fond à part. Au sein de la Genèse, ces premières pages de cette humanité que nous sommes, au soir du sixième jour, quand est achevée sa création, Dieu s'exclame « C'est vraiment bon !» En disant que Dieu vit que cela était bon. La Bible montre que la création ne tient pas sa bonté d'un bien abstrait, mais d'un Dieu créateur qui seul donne aux choses leur bonté. Ce n'est pas parce qu'une chose est bonne que Dieu la veut, mais parce qu'il la veut qu'elle est bonne. Et ce qu'il veut, c'est la vie, et que l'homme jouisse de l'arbre de la vie, que son existence se détache de ce don fabuleux de la liberté pour se laisser séduire par des choses simplement bonnes à manger, et il se verra incapable de faire le bien sans jamais pécher. Le mal qui sort de son cœur pervertit sa liberté et égare sa raison. C'est en se soustrayant ainsi à la bienveillance créatrice de Dieu que les hommes se laissent envahir, comme dira Paul, par toutes sortes d'injustices, de perversités, de cupidités, de méchancetés, pleins d'envie, de meurtres, de querelles, de ruses, de dépravations, de diffamation, de médisance, et devenant provocateur et orgueilleux, fanfaron, ingénieux au mal, etc. Voyez dans l'épître de Paul aux Romains, à cette litanie accablante des œuvres de malveillance dont sont capables les fils d'Adam, au point que leur créateur en viendrait presque à se repentir de les avoir faits. Oui, c'est une révélation biblique, et cette révélation oppose l'entêtement de Dieu à vouloir sauver la bonté de sa création au prix d'une alliance irrévocable avec Israël, qu'il a libéré de l'esclavage pour le conduire en ce bon pays où coule le lait et le miel. La loi qu'il donne aux fils d'Israël ne leur interdit que ce qui les empêche d'être libres. C'est cela, oui, le refus. Ce qui empêche d'être libre, ou pour nous aussi aujourd'hui, reste que le mal a la vie dure et le peuple la nuque raide. Mais de rupture en réconciliation, de péché en repentance, de désertion en retrouvaille, d'impiété en action de grâce, Israël expérimentera tout au long de son histoire l'inflexible bienveillance d'un Dieu sauveur. Jésus s'inscrira dans la lignée des prophètes qui eurent à subir la malveillance des méchants sans jamais cesser de croire au Dieu qui élève les humbles et se penche vers les pauvres et qui proclame ainsi à travers ses prophètes le règne de la justice et de la paix. L'évangile de Jésus, c'est la bonne nouvelle de la bienveillance divine. Son tombeau vide, c'est la signature d'un Dieu qui justifie la victime innocente et pardonne au coupable, relançant ainsi l'histoire de l'humanité selon l'invincible logique de l'amour. Le Christ qui était passé parmi nous en faisant le bien a vaincu la malveillance à sa racine en se faisant pour nous malédiction afin que par la foi, nous recevions l'Esprit qui produit dans le cœur amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur et maîtrise de soi. Voyez dans la lettre aux Galates, chapitre 5. Descendu du ciel pour faire la volonté de celui qui l'a envoyé, il a révélé de façon suréminente et définitive la bienveillance du Père. La volonté de celui qui m'a envoyé, dit Jésus, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour.